Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand donné dans le salon du Figaro vendredi. Aujourd'hui, l'ambiance serait plutôt à la fête de l'Huma. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver reposé, Julia.
Également, merci.
Du Figaro à l'Humanité, il y a un grand écart politique, mais vous savez que c'est notre figure préférée dans cette émission. Nous pourrions adopter pour devise l'histoire tous azimuts. Et la figure qui nous intéresse au sens historique du terme aujourd'hui, c'est celle du poète, de l'écrivain Louis Aragon.
Louis Aragon, quel Pierre Juquin consacre une biographie en deux volumes, Aragon, un destin français. La première partie, celle qui vient de paraître, couvre la période qui va de 1897 à 1939.
Oui, autant dire toute la jeunesse de cet homme difficile à cerner, ses origines, sa formation, ses passions, ses amours et bien sûr sa fascination pour l'Union soviétique. Nous y venons dans un instant, c'est le moment de nous adresser toutes vos questions via Internet ou les réseaux sociaux.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
On ne dira jamais assez l'intérêt des petites bibliothèques installées dans les chambres d'amis à la campagne au bord de la mer. On y fait parfois de belles découvertes. Ainsi, je l'avoue franchement, c'est en jetant un œil sceptique à l'édition de poche d'un vieux roman de Louis Aragon que j'ai découvert cet écrivain. Jusque-là, pour moi, Aragon, en dehors des chansons de Jean Ferrat, bien sûr, c'était ce vieux poète officiel du Parti communiste que l'on voyait sur les photos en gentleman aux côtés de Maurice Thorez ou de Georges Marchais. Je connaissais de loin la passion affichée d'Aragon pour Elsa Triolet, évidemment. Une passion en contradiction avec ce que je croyais savoir de plus loin encore de son penchant pour les garçons. Je connaissais son admiration sans borne pour l'URSS, celle de Staline d'abord, puis celle de la déstalinisation, et aussi qu'il avait écrit une histoire de l'Union soviétique parallèle à la célèbre histoire des États-Unis d'André Mauroy. Bref, le folklore communiste mis à part, je retenais d'Aragon des vers, inspirés certes, mais qui me semblaient plutôt datés et qui me semblaient surtout ne prendre vie qu'une fois mis en musique. Et puis, voilà donc que ce fameux soir, je tombe sur la version de poche d'un roman prix Renaudot 1936 intitulé « Les beaux quartiers ». Le temps seulement d'en tourner quelques pages, et je me rappelle avoir été comme aimanté par la splendeur du style, par la finesse des observations, par l'incroyable justesse du récit d'un auteur qu'en un mot je découvrais. Aussitôt, ma déformation précoce d'historien a voulu en savoir davantage, d'où pouvait bien sortir un si grand styliste, comment un si fin romancier avait-il pu se laisser abuser par le stalinisme, en un temps, il est vrai, celui de l'avant-guerre où il n'était pas le seul, loin de là. J'ai lancé ma petite recherche. À l'époque, Internet n'existait pas et j'ai appris, pêle-mêle, qu'Aragon était un enfant naturel, bien malheureux de cette condition semblait-il, que le jeune surréaliste avait rompu brutalement avec André Breton, qu'Elsa Triolet avait été accusée par certains d'être une espionne soviétique, que jeune journaliste Aragon avait été proche du grand couturier et grand esthète Jacques Doucet, mais aussi de Pierre Drieu-La Rochelle, ce qui ne l'avait pas empêché, après s'être battu ardemment en 1940, de devenir une figure emblématique de la résistance. Que de complexité, décidément, que de contradictions dans cette vie tissée de parti pris et de coups de génie. Il y aurait eu de quoi en décourager le plus coriace que moi. Et la vérité, c'est qu'à l'époque, j'ai refermé assez vite le dossier Aragon avec le sentiment flottant de n'avoir fait qu'entrevoir les complexités du personnage et de m'être laissé sans doute rebuter un peu vite par les chevaux pleins de nœuds de son existence. Mais je n'en ai pas pour autant oublié le style. Les auteurs sont très rares, vous savez, qui maîtrisent suffisamment les infinies subtilités de la langue pour s'autoriser à jouer avec des tournures parfois archaïques mais qui, sous leurs plumes, prennent un tour ultra-moderne. 20 ans après ma découverte de vacances, paraît le premier tome d'une biographie ambitieuse signée d'un ancien haut responsable du PCF, Pierre Juquin. Je m'y suis plongé, évidemment, avec l'avidité de ceux qui cherchent des questions restées longtemps sans réponse. Eh bien, je vous prie de croire que je n'ai pas été déçu. La voici, la somme inspirée qu'attendaient les non-initiés. Le voici, sans conteste, le grand récit de la vie de Louis Aragon. Pierre Juquin est avec nous dans ce studio. Alors nous avons, somme toute, peu de temps pour aborder beaucoup de questions. N'en perdons pas davantage.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, il s'agit de Pierre Juquin, ancien député communiste de l'Essonne. Il est auteur de Aragon à destin français, 1897-1939, aux éditions de La Martinière.
Bonjour Pierre Juquin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet Aragon dont vous parlez si bien. Alors, vous savez, dans cette émission, depuis tant d'années maintenant, nous sommes habitués à reprendre les enfances et les jeunesses d'un certain nombre de grands personnages historique, mais je vous avoue que celle de Louis Aragon me paraît très exceptionnelle. Il est rare, vraiment, de trouver une situation aussi alambiquée, confuse. Et malgré votre clarté et votre inspiration, je le dis très sincèrement, vous-même, au début, vous naviguez un peu sur cet océan tumultueux. C'est compliqué l'enfance d'Aragon. Alors expliquez-nous de qui il est le fils.
Voilà, alors c'est très compliqué, c'est un fait, et je ne suis pas sûr, honnêtement, d'avoir débrouillé complètement les chevaux. J'ai d'ailleurs levé quelques lièvres qui vont faire certainement couler pas mal d'encre parmi ceux qu'on appelle les Aragoniens. Oui. Alors, Aragon est né en 1897, à l'automne, c'est un enfant de l'automne.
On pourrait presque dire un enfant de la modernité, car il me semble que cette année 97, par tous les événements qui se sont concentrés sur elle, est un peu le début du monde moderne que nous connaissons.
Ah, je connais bien là l'historien. je pense plutôt parenthèse. Pour 1905.
Admettons.
Qui est une année très méconnue par
plus
les historiens, qui date souvent le début de ce qu'on appelle le court 20e siècle, de 1914,
c'est une erreur. Moi aussi.
C'est 1905, je pense. Mais
alors, revenons sur cette enfance. Oui.
ce qui expliquera d'ailleurs son nom,
et oui,
qui n'est pas courant.
Oui.
Nous sommes en 1897, au début de l'année, à Noël ou au jour de l'an, et un monsieur assez âgé, de plus de 50 ans, qui est un notable de la Troisième République, ancien franc-maçon, ancien préfet de police, qui a expulsé les congrégations en gangrie opéra.
Qui a bien failli être président du conseil.
Qui a failli être président du conseil. Il y a eu quelques décorations de trop, qui finira sa vie comme président de la Chambre des députés à près de 80 ans, qui s'appelle Louis Andrieux, L.A. Et ce Louis Andrieux est un charmeur, un séducteur. Il rencontre une jeune fille de moyenne bourgeoisie. Lui, c'est la grande bourgeoisie.
Beaucoup, beaucoup plus jeune que lui.
Infiniment plus jeune. Je pose même une première question qui n'est pas tranchée. On n'est pas très sûr de sa date de naissance sur laquelle elle a menti au cours de sa vie. Il est possible qu'elle ait été mineure à cette époque. Mmh. Ce qui, dans la société de l'époque, était évidemment très grave. Alors, il la rencontre et il en résulte un enfant. Nous sommes à une époque où, en plus, elle est catholique. Lui, il est marié dans la haute société protestante. Pas question de faire disparaître cet enfant. Donc, on l'envoie en province, probablement dans la région de Toulon, pour cacher, comme il dit lui-même beaucoup plus tard, ce malheur, moi. Vous vous rendez compte? Alors, là, il y a une première question qui se pose.
C'est Aragon qui dit ça.
C'est Aragon qui dit de lui-même ce malheur, moi. Une première question qui se pose, c'est dans l'histoire telle qu'elle est écrite aujourd'hui, reprise par Aragon lui-même, elle revient à Paris au terme de sa grossesse, elle accouche, elle revient tellement au dernier moment qu'elle aurait accouché même sur la place des Invalides. Il fallait bien qu'un héros accouchât auprès d'un dieu. J'ai un petit doute. Parce que aussitôt après, on l'envoie, lui, à Aragon, tout petit, chez une nourrice en Normandie. On a d'ailleurs une photo où il est sur les genoux de cette brave paysanne. Il reviendra à peu près un an après à Paris. La chose sera effacée. Ils auront déménagé du côté maternel, reprenant l'appartement de la famille Monterland. Mmh. Vous voyez à quel niveau on se situe. Mais est-il bien né à Paris ?
Ah ça.
Est-il bien né à Paris ? Ne serait-il pas né plutôt avant qu'elle revienne du côté de Toulon ? Il y a plusieurs indices qui peuvent le laisser penser. Premier mystère qu'élucideront sans doute les généalogistes et les historiens. Alors, ce Louis Andrieux, c'était un personnage très en vue. Méphisto et Marguerite, elle s'appelait Marguerite.
C'est ça, c'est vraiment ça.
Marguerite Toucas-Massillon. Dans le légendaire familial, elle descend à la fois d'une famille de gens très installés, de bourgeoisie rurale riche, et de la famille de l'évêque Massillon, qui fut un grand prêcheur au temps de Louis XIV. C'est pas absolument certain non plus. Ça en fait déjà des mystères. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? La loi, ne l'oublions pas, à l'époque, et celle du code civil napoléonien, on ne peut pas reconnaître l'enfant. Le père ne peut pas. ou alors il faut divorcer, etc. Il n'en était pas question. Alors un arrangement est négocié, probablement entre la grand-mère d'Aragon et ce Louis Andrieux. On lui donne un nom, L.A. comme le père, Louis comme le père, mais A. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? Aragon. Pourquoi Aragon ? Des hypothèses diverses. L'une est que ce Louis Andrieux, qui a été dans sa carrière ambassadeur à Madrid, aurait eu une histoire avec la fille ou de la reine d'Espagne et il aurait pensé à lui donner le nom de cette province. Voilà. Et Aragon, c'est quand même une chose qui va peser sur lui toute sa vie. Il le dit quand sa mère meurt pendant l'occupation de la France, la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai jamais dit le mot « maman ». Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette mère ?
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que sa mère va bientôt lui faire office plutôt de grande sœur. C'est sa grand-mère qui fait un peu office de mère. Et ne parlons pas du lien avec le père, tout ça, évidemment.
Le père l'a beaucoup plus suivi. Aragon ne le dira plus tard et que l'on dit quelques biographes. Il a été présent.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et la figure qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1 est celle du poète et écrivain Louis Aragon. On en parle, Franck, avec votre premier invité, Pierre Juquin.
Oui, Pierre Juquin, il faut quand même que nous précisions une chose que nos auditeurs ne sont pas censés savoir, c'est que Aragon ne découvre la vérité sur son ascendance que tard lui-même. On commence par la lui cacher, en vérité.
Très tard, oui. Puisque jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est ça. Il a considéré sa mère comme sa sœur. J'ai même trouvé des preuves chez d'anciens communistes qui l'ont connu, qu'après la Première Guerre mondiale, il la présentait encore, alors qu'il savait la vérité, comme sa sœur. Oui.
Il y a des poèmes
d'ailleurs un peu étranges à ce sujet. Faut dire qu'il l'a appris, toute la vérité, il l'avait sans doute un peu pressenti. Il y avait une ouverture quand il avait 13-14 ans, mais il l'a apprise dans des conditions effrayantes. Il est mobilisé comme médecin militaire, il achevait des études de médecine, qui n'a pas tout à fait terminé. On est sur le quai de la gare de l'Est, en 1918, au moment de la grande offensive de Foch qui va refouler l'armée allemande et donner la victoire aux Français. Il monte au front, on entend le canon, presque. Le train est bondé de militaires. Sa mère arrive sur le quai de la gare pour l'embrasser. Sa mère, qui est sa sœur, arrive pour l'embrasser et lui dit « Voilà, ton père m'a demandé de te dire, c'est ton père. » D'ailleurs, j'ai essayé d'imaginer la scène.
J'imagine qu'il devait être déjà, lui, assez bouleversé par les circonstances. Et en plus, on lui annonce ça.
Vous vous rendez compte
d'un
choc ? C'est fou. Et alors, ce qui m'a frappé dans cette vie d'Aragon, dans cette enfance, jeunesse, adolescence, c'est que il ne réagit jamais en se démoralisant, en quelque sorte. Il réagit en inventant des vies extraordinaires, en inventant des romans, en inventant des poèmes, en inventant des histoires. Il s'invente et il invente à tout le monde d'autres histoires. Il réagit par l'imaginaire.
Il a commencé très tôt. C'est-à-dire qu'il
5-6 ans.
Il écrivait des récits historiques, des romans, etc. Quand je dis il l'écrivait, il les dictait quand il était tout petit.
Il les dictait parce qu'il ne savait pas encore écrire,
le pauvre.
Il les dictait. On en a conservé un qui est de sa main alors qu'il commençait à écrire, où il reprend une histoire qui se passe en Russie, etc. C'est-à-dire une histoire de famille décomposée, recomposée.
Comme par hasard.
C'est étrange.
Oui.
Mais ça sera le cas toute sa vie. Vous voyez, je fais le parallèle entre cette enfance, cette adolescence, et ce qui se passe au moment où le communisme explose à partir, ou le stalinisme explose,
oui,
en tout cas,
à partir 50,
de 1956,
oui,
avec Nikita Khrouchtchev. Il ne réagit pas en capitulant, en s'effondrant, il réagit par des salves de chefs-d'œuvre.
C'est ça, voilà. Comme si l'intelligence devait être plus forte que l'événement. On a constamment cette impression avec lui.
Le monde du rêve. Le monde, c'est un monde supérieur.
Le monde idéal doit primer sur le monde réel.
Il réagit par l'idéal contre cette vérité très dure.
Alors, vous avez dit qu'il avait commencé, même pour ce qu'il a suivi, des études de médecine. C'est dans ce contexte-là qu'il va rencontrer Breton.
Alors, il rencontre Breton parce que Breton était également élève médecin. Il n'a pas poursuivi d'ailleurs. Ils sont au Val-de-Grâce tous les deux, au secteur des fous, qui ont été traumatisés par les horreurs.
On voit d'où naît le surréalisme, finalement, au milieu des personnes dérangées et déficientes mentales, en fait.
Qui hurlent. Qui hurlent. On appelait ça, parce que l'armée camouflait, le 44 fiévreux. Les fiévreux, c'était des gens démolis. Eh oui, vous savez, ces gens qui marchent courbés toute leur vie ou autre. Et là, d'ailleurs, Breton prend de l'avance sur le terrain professionnel, en quelque sorte, sur Aragon, en allant voir Freud. Et il va se renseigner sur le freudisme. Aragon ne le connaissait pas jusque-là. Et il noue une amitié très profonde. Il se rencontre dans une librairie, celle d'Adrienne Monnier, etc. Et le premier jour qu'il se voit, il y a une lettre qu'on a retrouvée récemment de Breton à un ami qui dit « Il sait tout, il a tout lu et il lui a récité Rimbaud. »
Et Rimbaud qui le critiquera d'ailleurs de façon très brillante, mais plus tard.
Oui, enfin il prendra ses distances, non pas à l'égard de Rimbaud, mais à l'égard de la folie rimbaldiste,
c'est ça, voilà, oui.
De faire de Rimbaud ce qu'il n'était pas. Et alors il monte au front avec Rimbaud dans sa poche d'ailleurs.
Il est un écrivain, alors on a dit qu'il avait écrit vraiment très tôt, c'était un jeune prodige, là le mot n'est pas trop fort.
Ah oui, je crois, il me fait penser à Mozart enfant.
Mais il n'entre en littérature que nettement plus tard, évidemment. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale.
Voilà,
et pour cause d'ailleurs.
Il a 21 ans. Hein.
Oui, voilà.
Il commence déjà à écrire un petit peu dans des revues, fonder des revues avec Breton, avec Tristan de Sarra, venu de Zurich, où s'est fondé le mouvement Dada, qui est un mouvement anarchisant de protestation contre la guerre. Ce qu'ils ont vu dans la guerre, ces jeunes gens, et particulièrement Aragon, qui gardera toute sa vie, c'est une constante structurante chez lui, la haine de la guerre. Ce qu'ils ont vu dans la guerre, c'est pas seulement la boucherie, l'horreur, c'est l'hypocrisie, le mensonge, toutes ces contre-vérités au nom de l'humanisme.
Et il a eu l'impression que toute cette classe intellectuelle, tous ces grands noms de la littérature française, lorsqu'ils prêtaient leur plume à l'héroïsme de cette guerre, étaient dans une attitude de trahison, et ça va effectivement déterminer
trahison
son parcours.
Trahison par rapport aux valeurs intellectuelles et au rôle de l'intellectuel dans la société.
Donc à partir de là, pour Aragon, il y a une urgence à dénoncer ça et à lutter contre.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous parlons aujourd'hui d'Aragon, toujours en compagnie de Pierre Juquin, qui est ancien député communiste de l'Essonne. Et Yann Brossat nous a rejoint. Il est président du groupe communiste au Conseil de Paris. Il a été également prof de lettres.
Tout jeune président du groupe communiste au Conseil de Paris. Bonjour Yann Brossat.
Bonjour.
Alors vous me disiez avant que ne commence cette émission que vous êtes venu, que vous avez en tout cas adhéré au Parti communiste par Aragon ou grâce à lui ?
D'une certaine manière, oui. J'étais en seconde, j'avais 16 ans et j'avais un professeur de français que j'aimais vraiment pas du tout et qui passait son temps à dire du mal d'Aragon. Et du coup, comme j'avais l'esprit de contradiction, du coup, je me suis empressé d'acheter un ouvrage d'Aragon. Et puis l'année d'après, j'ai adhéré au Parti communiste français. Donc d'une certaine manière, j'ai puni mon professeur deux fois.
Et nous verrons avec vous tout à l'heure à quel point la mémoire d'Aragon est encore très vive. Hein. On peut dire qu'il reste aujourd'hui, 30 ans exactement après sa mort, il reste la figure tutélaire du Parti communiste.
En tout cas, le Parti communiste est encore très attaché à Louis Aragon, évidemment. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a toute une série de célébrations au siège du Parti communiste français, place du Colonel Fabien, qui vise justement à rendre hommage à Louis Aragon.
Alors nous y venons tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais qu'on revienne dans cette vie tellement mouvementée, étrange, cette jeunesse invraisemblable d'Aragon. Alors on lui connaît des amitiés très fortes, et évidemment celle d'André Breton sera structurante pour son avenir littéraire. Mais il va bientôt devenir patron de presse, on va en dire un mot, Pierre Juquin bien sûr. Mais on ne lui connaît pas tellement d'aventures amoureuses avec des femmes, enfin pas beaucoup en tout cas. Alors il y en a une qui est restée célèbre, c'est la milliardaire Nancy Kennard, dont il a été l'ami, comment pourrait-on dire, le chevalier servant, le Sigisbée,
le compagnon,
le compagnon
plusieurs années. Mais il y en a tout de même d'autres. La femme, la dame des buts de Chaumont, la personne qui traverse cette promenade érotique dans Paris s'appelle le paysan de Paris, dont je propose d'ailleurs une lecture philosophique, à tort ou à raison. C'est une nommée Ère de Lanux, qui a atteint l'âge de 100 ans, dont on a retrouvé les archives aux États-Unis, elle était franco-américaine, et alors dans ses archives, il y a son carnet, la nuit, le matin qui suit une nuit qu'elle a passée avec Aragon, et on retrouve exactement dans son carnet les mêmes façons d'aimer que celle qu'on découvre dans Le Paysan de Paris, le texte littéraire. Alors, il y a Nancy Kennard, très important. Nancy Kennard, il a été avec elle pendant
c'est
un
la
certain
même, C'est
années.
La famille Kennard des paquebots. Hein,
c'est la entendu, fille hein. des paquebots, si je puis dire. Vous savez, ces paquebots qu'on voit sur les affiches Art déco
dont le
de
Titanic,
l'époque.
D'ailleurs.
C'est cette grande femme très mince, longiligne, qu'on voit sur des photos célèbres de Man Ray, qu'on a en poster aujourd'hui avec plein de bracelets autour du bras. Cette femme était brillante, intelligente, vive, combative, une rebelle. Une rebelle qui d'ailleurs soutiendra les combattants en Espagne, les Noirs d'Amérique, etc. Et cette Nancy Kennard, ça a été un amour fou pour Aragon. Le grand romantisme. Il a failli se tuer pour elle. parce que il est parti avec elle après avoir parcouru l'Espagne, l'Italie. Il se trouve à Venise avec elle et quel rappel historique dans l'histoire littéraire. Et elle tombe amoureuse, je ne sais pas pourquoi on est toujours tombé amoureux, mais enfin, elle tombe amoureuse d'un musicien noir, un jazzman, Henry Crowder, et il ne supporte pas. Jalousie. Aragon était d'une jalousie considérable,
susceptible,
prodigieuse.
Jaloux.
Peut-être d'ailleurs, ça s'explique par son enfance, les rapports avec sa mère, le père, etc. Je ne sais pas, je ne vais pas faire la psychologie qui n'est pas du tout mon domaine, mais il a failli se tuer.
Oui, oui.
Mais il la reverra. Il la reverra, même après avoir connu Elsa Triolet en étant avec
Alors,
elle.
Justement,
et même après la Deuxième Guerre mondiale.
Venons-y à Elsa Triolet. Elle est évidemment, dans l'imaginaire collectif, dès qu'on parle d'Aragon, on pense immédiatement aux yeux d'Elsa. C'est le grand amour d'Aragon, c'est l'égérie de ses poèmes, en tout cas d'une grande partie d'entre eux. Les chansons de Jean Ferrat les ont popularisées, évidemment. Alors, qui est-elle, cette Elsa Triolet? D'abord, elle est russe, il faut dire.
Elle est russe, elle fait partie de la bourgeoisie juive intellectuelle russe. Elle est aisée, sa sœur est brillante, elle a fait des études d'architecte elle-même, elle écrit des poèmes, puis elle est amoureuse de Maïakovski. Mais sa sœur aussi.
Et
sa sœur lui enlève Maïakovski.
Et Maïakovski, alors il faut dire un mot de c'est le Rimbaud soviétique.
Le Hugo, c'est tout ce qu'on veut, c'est incomparable. C'est le plus grand poète russe, c'est un des plus grands poètes vivants avant Pasternak.
Il est considéré comme l'icône de la littérature révolutionnaire.
Ah ben, c'est un monument, en plus. Oui, je ne sais pas si vous avez regardé, vos lecteurs peut-être, mais je leur recommande, vos auditeurs, un film de Maïakovski de l'époque. C'était un personnage géant, extraordinaire, à la fois gueule d'amour et gueule de voyou.
Enfin, personnalité,
il a fasciné l'Europe et les intellectuels. Et quand Aragon adhère ces années-là au Parti communiste, c'est aussi au parti de Maïakovski qu'il adhère.
Et d'ailleurs, son lien, qui sera un lien immarcessible avec l'Union soviétique, c'est au moment même de la mort de Maïakovski
qu'il va se
nouer.
C'est la première fois qu'il ira en URSS à cette époque-là.
C'est ce que je vais vous raconter maintenant, si vous le voulez.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1, l'un des voyages d'Aragon en URSS.
Et oui, nous parlions de Vladimir Maïakovski, ce grand poète révolutionnaire. Il meurt le 14 avril 1930 à Moscou. Quand je dis il meurt, il se donne la mort. Il a 37 ans. C'est donc vraiment une icône à l'époque du régime stalinien. Staline a une vraie passion personnelle. Alors il y aura des hauts et des bas, j'entre pas dans tous les détails. Toujours est-il que ce Maïakovski, vous l'avez compris, avait entretenu une relation avec Elsa Triolet et qu'il continuait d'entretenir une relation assez trouble avec Lily, la grande sœur d'Elsa, dont il avait du reste amoureux. C'est à elle qu'il consacre la dernière ligne qu'il laisse à la postérité. Lily est mariée de son côté à l'éditeur Ossip Brick, qui est devenu l'éditeur et l'ami du poète. J'irai pas jusqu'à parler de ménage à trois, mais enfin il y a un peu de ça quand même. La mort de Maïakovski touche donc de très près les Brick, leur sœur, belle-sœur Elsa, et donc bien sûr Louis Aragon. C'est dans ce contexte pour le moins chargé que Louis et Elsa partent pour Moscou. Faut-il préciser qu'à l'origine de ce déplacement, il y a Elsa, et puis bien sûr Lily et Ossip Brick, donc le beau-frère d'Elsa. Voici donc Elsa et Louis chez Lily à Moscou, écrit Pierre Juquin, dans l'appartement où Maïakovski a vécu. Leur ami Georges Sadoul, condamné à 3 mois de prison pour avoir envoyé une carte postale d'insulte au major de la promotion de l'école militaire de Saint-Cyr, quitte la France et les rejoint vers le 12 octobre. À Gendrikov-Periouliok, c'est-à-dire dans la rue, si vous voulez, la ruelle Gendrikov, nous étions tous ensemble assis autour de la table dans la pièce commune, comme si, dans l'encadrement de la porte, il allait à l'instant paraître, trop grand pour les meubles jouets, comme un soleil pour les fenêtres. On reconnaît l'incroyable sophistication du vers d'Aragon. Ces vers presque hallucinés, on peut dire que Aragon vit là dans le souvenir direct d'un Maïakovski qui vient de se donner la mort, il les écrit sans doute sous l'emprise d'une forme de conditionnement, un conditionnement qui a été voulu par Elsa elle-même. Au milieu des années 90, Vladimir Fedorovski avait publié avec Gonzague Saint-Brice un ouvrage sur les égéries russes, dont un chapitre qui m'avait beaucoup passionné à l'époque est consacré à Elsa. Selon eux, au cours de ce fameux voyage, Elsa apprend les choses en main et décide en quelque sorte que son amoureux du moment, que son cher Louis, que Louis Aragon, va prendre en quelque sorte la place de Maïakovski. Et pour elle, disent les auteurs, c'était l'occasion d'abord de séparer définitivement Aragon de ses amis les surréalistes, qui n'avaient jamais accepté, Elsa. C'était un moyen de prendre la première place aussi dans la hiérarchie familiale, puisqu'après que sa sœur avait été en quelque sorte l'égérie de Maïakovski, elle allait devenir, elle, l'égérie du nouveau grand poète révolutionnaire. Et puis, le but était sans doute de transmettre le fanion en quelque sorte à Louis Aragon, qui va s'en saisir et qui désormais ne le lâchera plus. Ce qu'il faut savoir aussi, et cela on ne le sait que depuis l'ouverture des archives soviétiques, en tout cas avec une certitude absolument incontestable, c'est que Brick, donc le beau-frère, a été chargé par le régime de préparer le plénum international des écrivains révolutionnaires à Kharkov, et que derrière tout cela, il y a une présence incontestable de la GPU, c'est-à-dire la police secrète de Staline qui va devenir plus tard le NKVD. Voici donc Aragon et Sadoul, écrit de nouveau Pierre Juquin, embarqués pour Kharkov, donc pour ce congrès d'écrivains. Avec Elsa, indispensable interprète, ce voyage, quelle mise en scène. Train spécial, plus de 100 écrivains venus de 35 pays. Dans leur compartiment, Elsa et Louis sont entourés. C'est là, se rappelle Aragon, que j'ai rencontré pour la première fois Alexandre Fadeïev. Une amitié se noue, durable. Figurez-vous, le jeune dirigeant de la RAPP, la RAPP c'est l'association des écrivains prolétariens, connaît ce jeune dirigeant connaît Staline personnellement. Ça les fait rêver tous, bien sûr. Je reprends le texte de Pierre Juquin. Il raconte des histoires de partisans, part dans des fous rires, chante des romances à vous tirer des larmes. À chaque gare, des délégations de travailleurs accueillent avec des fleurs les écrivains. On discute jour et nuit de la collectivisation des campagnes, des grands chantiers, des tâches de l'écrivain communiste. Un vrai poète, Édouard Bagritsky, incarnation du romantisme révolutionnaire vastement cultivé, passionné du Parnasse et du symbolisme français, auteur d'un hymne à Maïakovski, lit ses traductions de Rimbaud et de Béranger. Atmosphère, atmosphère, écrit Pierre Juquin. À l'entrée du congrès, une maxime de Staline est affichée. La littérature prolétarienne sera nationale par la forme et socialiste par le contenu. Ce contenu socialiste, évidemment, on le retrouvera dès lors dans toutes les tentatives littéraires et dans tous les accomplissements littéraires de Louis Aragon. Comme l'avait montré Jean-Pierre Morel dès 1986, il existe des liens très étroits entre le bureau de la littérature révolutionnaire et l'international communiste. Ce qui ne veut pas dire pour autant que Louis Aragon et Elsa Trionnet aient été des agents patentés de l'international, mais ils en étaient sans doute des agents d'influence, si l'on en croit en tout cas un certain colonel Boris qui, au milieu des années 90, a prétendu révéler à leur sujet certains engagements. Ce qui est certain, c'est qu'au retour du fameux voyage à Moscou, Louis Aragon n'est plus le même homme. Désormais, il sera le porte-enseigne de cette littérature révolutionnaire et, pour tout dire, il va devenir, et c'est comme ça que l'opinion publique française définitivement le considérera, il va devenir la voix attitrée de l'Union soviétique en Occident. Alors Pierre Juquin, est-ce qu'on peut dire qu'Elsa Triolet a manigancé cette métamorphose de Louis Aragon ?
Bon, je ne prends pas tout à fait à mon compte le récit que je viens d'entendre, mais on peut discuter, il y a beaucoup de choses vraies. Je pense qu'il faut aller vraiment au fond des choses. Entre 1927 et 1930, Aragon, qui jusque-là n'en a pas eu vraiment conscience, s'aperçoit, découvre, se met dans l'idée qu'il s'est passé en Russie un événement de portée mondiale, pas seulement historique, je dirais presque anthropologique, qui a des conséquences pour toute l'espèce humaine. Et ça, c'est une conviction qui, malgré toutes les oscillations, les horreurs, les déceptions de l'histoire, restera une ligne directrice chez lui. Il s'est passé là-bas, en URSS, quelque chose qui nous touche. Maïakovski en est un symbole, Elsa Triolet est un peu l'introductrice vers ce monde. Et puis la deuxième chose, c'est le rôle d'Elsa Triolet. Dire qu'Elsa Triolet était un agent du KGB, etc., je dirais que c'est une histoire à la James Bond, ça. Toutes les données prouvent le contraire. Elle était partie avec un Français pour ne pas rester au moment de la Révolution là-bas.
Ah oui, au tout début, ça c'est sûr.
Monsieur Triolet.
Oui.
Elle s'était séparée de lui, elle vivait dans une très grande difficulté financière et on possède maintenant son cahier personnel intime en russe qu'elle a écrit au moment de sa rencontre avec Aragon. Et dedans, on voit qu'elle était au bord du désespoir, elle allait se tuer. Donc, c'est pas du tout un agent du KGB, mais elle a ouvert ce monde russe duquel Aragon rêvait déjà parce que dans son adolescence, il avait lu le livre d'un noble, un aristocrate, le comte de Vaugué, qui était un livre qui chantait les beautés, la grandeur et la nouveauté du réalisme russe, de la grande prose russe.
Merveilleux livre au passage.
Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te faire attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse.
Léo Ferré nous chante forte et douce Elsa sur Europe 1.
Pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse.
On l'écouterait bien encore quelques secondes.
C'est vrai.
Et la fin de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin.
Nous parlons d'Aragon, Jean-Paul Franck.
Et c'est vrai que quand on entend Léo Ferré, là, on parlait du grand rêve tout à l'heure. Quelle merveille. Sophie nous dit, je ne connais pas vos invités, mais avant d'être communiste, Aragon est avant tout un sublime poète, ne l'oubliez pas. Mais on ne l'a pas oublié, la preuve, vous voyez. Jean-François nous dit, Aurélien, quelle merveille. C'est vrai que c'est un grand livre aussi.
Le plus beau roman d'amour
de
langue française.
Absolument superbe. Et Marie-France nous dit qu'elle est allée au moulin de Villeneuve récemment où vivaient Aragon et Elsa Triolet à Saint-Arnoult en Yvelines et que évidemment leur mémoire est encore très présente. Vous la défendez, vous, Elsa Triolet, vraiment?
Oui.
Hein,
Elsa Triolet. Si vous me permettez une petite contestation, Franck Ferrand, je n'aime pas le mot égérie.
Égérie.
Je n'aime pas ce mot.
C'est
parce
un terme bourgeois.
Non, c'est pas ça, mais il ravale les femmes à un rôle secondaire, subalterne. D'abord, elle est elle-même une créatrice. Elle va être un des écrivains français, grand ou pas, on l'aime ou pas, elle sera le premier prix Goncourt féminin dans notre histoire, après avoir été sur le sol de France, juive, communiste, femme d'Aragon, ayant refusé de partir en Amérique, comme on fait Breton, par exemple, et d'autres. Elle aura dirigé des maquis elle-même. Elle va devenir la femme qui obtient le Goncourt, une critique théâtrale.
Elle est morte en 1970.
Et, oui.
Et alors, après sa mort, Aragon finit par révéler qu'en fait, il est homosexuel.
C'est un peu plus... Oui, il est... D'abord, il a probablement eu quelques histoires homosexuelles, c'est pas très prouvé. Peut-être même avec Drieu La Rochelle, Jean Rista, grand poète français, exécuteur testamentaire d'Aragon le dit, pourquoi ne pas le suivre. Il a peut-être eu une histoire pendant la guerre, c'est le moment où il écrit le célèbre poème mis en musique par Brassens, lui. Aragon est le poète français le plus mis en musique devant Hugo.
Ah oui, oui, c'est qu'il adorait du reste.
Il n'y a pas d'amour heureux, oui. Et puis, après la mort d'Elsa, et il a des fréquentations homosexuelles, on peut dire qu'il est bisexuel, je crois.
Alors, la grande période, le moment où son activité va battre son plein, c'est au lendemain de la guerre, où tout auréolé de son activité de résistant, bien entendu, est porté par la lame de fond qui, dans l'opinion publique, porte le Parti communiste très haut. Évidemment, à ce moment-là, on peut dire qu'Aragon est devenu quasiment une conscience nationale. Et on a l'impression que le Parti communiste, aujourd'hui encore, Yann Brossat, vit sur ce souvenir-là et sur cette époque assez extraordinaire des années, tout début des années 50, disons.
Bien sûr que Aragon est pour nous une figure essentielle et dans le même temps, je ne suis pas sûr qu'Aragon soit simplement pour nous un visage nostalgique. Aujourd'hui, quand on lit Aragon, on voit beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer pour aujourd'hui et pour les combats qu'on mène aujourd'hui. Il y a une phrase d'Aragon que j'aime beaucoup, il dit « croire au soleil quand tombe l'eau ». Autrement dit, il y a un espoir qui est possible. Et même si c'est difficile, même si c'est un chemin semé d'embûches, le combat pour un autre avenir, le combat communiste, est un combat qui mérite d'être mené. Et je crois que si aujourd'hui nous continuons d'aimer Aragon, c'est parce qu'il nous donne cet espoir-là, cet espoir d'un autre monde, d'une autre société que celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
Les intellectuels ne sont plus vraiment communistes aujourd'hui. Ils l'ont été en masse à l'issue justement de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'Aragon était leur chef de file ou leur chef d'orchestre à vos yeux? Est-ce qu'il y avait cette dimension meneur d'hommes chez lui?
Bien sûr, il y a chez Aragon cette dimension-là. Il dirige d'ailleurs une revue, Les Lettres Françaises, qui rassemble toute une série d'intellectuels communistes. Et vous disiez aujourd'hui, il n'y a plus d'intellectuels communistes. J'ai envie de dire qu'il y a, de manière générale, peu de figures qui, dans le monde intellectuel, prennent parti sur les enjeux politiques. Et aujourd'hui, Aragon, d'une certaine manière, est pour moi une source d'inspiration parce qu'il nous montre justement cette idée que le combat doit toujours être mené. Une autre phrase d'Aragon qui est très marquante, il dit « Je rends ma carte du Parti communiste tous les soirs et je la reprends tous les matins
oui. ».
Autrement dit, il y a une lucidité chez Aragon sur les limites qu'il y a, y compris dans le Parti communiste, et en même temps, l'engagement demeure et la combativité demeure.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où le Parti communiste français se pose de grandes questions, notamment après Budapest évidemment, il fait partie de ceux qui sont plutôt en retrait et même très en retrait. Il suit la ligne officielle, toujours. Il va devenir contre Staline au moment où la déstalinisation est officielle en Union soviétique. Il y a quand même toujours ce côté, il est quand même particulièrement observant de la ligne officielle.
C'est vrai, et il est dans le même temps l'homme qui, dans un certain nombre de cas, va aider des dissidents qui viennent de l'Est. Je pense à Kundera,
c'est
le premier à éditer Solzhenitsyn. Il héberge chez lui le violoncelliste Rostropovitch qui a été privé de sa nationalité soviétique. Et Rostropovitch va même habiter chez lui, rue de Varennes. Donc, il y a aussi une forme de contradiction chez Aragon. Et ça n'était pas un engagement aveugle.
Ah, une forme de contradiction, c'est une litote. Je pense que cet homme est incroyablement pétri de contradictions. Mais encore une fois, quand on repense à son enfance et à ses origines, ça n'a rien de très étonnant. Pierre Jukin, il faut quand même dire, parce que jusqu'ici, vous avez eu la pudeur de ne pas le dire, mais vous l'avez bien connu, vous, Louis Aragon.
Oui. Ah oui, d'abord je l'ai découvert pendant la guerre, dans la clandestinité. J'étais bombé dans la clandestinité. J'étais un petit lycéen. Mon professeur a eu entre les mains un exemplaire du Crève-Cœur, les poèmes d'Aragon.
Oui,
et ça a changé en partie ma vie. Et je l'ai rencontré pour la première fois fin 58 ou début 59 chez lui. Pendant plus de 2 heures, j'entrais chez Dieu. Et d'ailleurs, il l'a compris. Et ce jour-là, il s'est d'ailleurs passé quelque chose d'incroyable entre nous. À un moment, j'étais assis dans un fauteuil profond, couleur boudée tranchée. Il me dominait toute sa taille. C'était un grand metteur en scène, et se tourne vers moi et avec une émotion que j'ai profondément ressentie, il me dit, et puis mon petit, il y avait André Breton, il en parlait presque jamais, et j'ai senti comme physiquement un courant passer entre nous, jamais plus je me suis senti à l'écart de lui, quoi qu'il arrive.
Aragon, un destin français, 1897-1939, c'est le début, le premier tome de l'imposante biographie que Pierre Jukin lui consacre aux éditions de La Martinière. Et puis, si vous voulez savoir quelles sont les célébrations organisées par le Parti communiste français à son siège même, place du Colonel Fabien, pour le 30e anniversaire de la mort d'Aragon, il vous suffit d'aller sur le site du PCF. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés.